sous les bombes, sous les missiles et aux traces des chars les plus redoutables du monde et la flotte la plus puissante jamais vue depuis celle de Carthage, pour vous provoquer, l'Amérique annonce un âge d'or pour le Proche-Orient. Je commence par ce titre provocateur, car je suis obligé de le dire en anglais, même américain, « The Golden Age for the Middle East ». Et Trump a osé parler de ça. Malgré son temps de négociation qui traîne et sa théorie terrible du fou, qui égare tout le monde et qui ne sait pas où il va, et qui n'affirme jamais et qui n'annonce jamais si c'est la paix ou c'est la guerre, il annonce un temps d'or, un âge d'or pour le Proche-Orient. Quelles sont les raisons de ces paradoxes qui nous arrivent de la plus grande puissance du monde? C'est simple quand on regarde le Proche-Orient tel qu'il évolue. Et je prendrai pays par pays pour vous dire uniquement le paradoxe de chaque pays. Prenons celui le plus proche d'Israël. Car le grand paradoxe qui relie la stratégie américaine à cette région, c'est que la sécurité d'Israël passe avant toute autre sécurité. Donc le monde critique les États-Unis de tergiverser, de traîner après une attaque foudroyante contre l'Iran. Une attaque qui fut annoncée comme étant redoutable pour la marine iranienne détruite, l'armée iranienne et sa puissance même énergétique. Et malgré cela, l'Iran reste debout. Et malgré la disparition de ses chefs symboliques, historiques, l'Iran continue à négocier. Alors, où se trouve le paradoxe? Le paradoxe est simple, c'est que la seule stratégie claire, définitive, dans cette région, c'est celle d'Israël. Elle ne bouge pas. Et Israël, elle est arrivée après 72 ans de guerre. Nous ne sommes pas loin de la guerre de 100 ans dans cette région. Pour considérer que finalement l'Égypte est en paix avec Israël. La Jordanie aussi. Reste la Syrie, reste le Liban, reste l'Irak et reste l'Iran. Mais de tous ces pays qui sont en face d'Israël, seul l'Iran a l'ambition nucléaire. Et c'est une ambition qui est sérieuse car l'Iran, qui n'est pas un pays arabe, est doté d'ingénieurs de marque et de niveau. Capable d'enrichir l'uranium et capable d'atteindre ce stade, un peu comme leurs cousins les Pakistanais, car ils viennent d'Inde après tout. Et tous ces pays qui s'entourent et qui se jalousent quelque part, et ça n'est pas étonnant que le Pakistan joue le rôle de médiateur, car le Pakistan est un pays nucléaire. Pour Israël, le but c'est de faire tomber le régime iranien. Et cela se fera, car Israël l'a décidé. Mais par étapes. Et c'est pourquoi Donald J. Trump et l'Amérique, tout en annonçant vraiment l'âge d'or du Proche-Orient, tergiversent et montrent qu'un simple problème comme le détroit d'Hormuz qui met en cause toute l'économie mondiale n'est pas si grave, parce qu'ils savent que derrière cela, Israël est déterminé à aller jusqu'au bout de sa stratégie. Et sans parler de la stratégie américaine qui perturbe tout le monde, car elle n'est pas annoncée ou jamais annoncée, car elle est toujours en attente de ce qu'Israël va faire. Même si Trump parfois tire les oreilles à son ami Netanyahou. Mais il y a tout un lobbying juif mondial, les milliardaires, les banquiers, qui veulent sauver Israël après l'avoir créé en 1948, qui ne peuvent pas abandonner cette idée d'une victoire définitive d'Israël. Et cette victoire est simple, elle a un but, installer un nouvel empire sur les frontières de tous les pays arabes après les avoir réduits à des normalités, je dirais, juridiques et ce que l'Amérique appelle avec un nom plus noble et plus historique, les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham ne peuvent être signés qu'une fois que ces pays auraient cédé. Qu'une fois surtout que les milices proxy iraniennes, celles de Hezbollah, auraient été détruites. Et aujourd'hui, en face de Liban, nous ne sommes pas loin de cette destruction, car l'armée d'Israël vient de franchir le fleuve du Litani, au-delà de 30 km, et elle s'approche des bases du Hezbollah qu'elle détruit progressivement. De même en Irak. Même le grand chef ennemi de Saddam Hussein historique qui l'a fait pendre, Mustafa Sadr, vient d'annoncer que le temps des milices est terminé. Le temps des souars est terminé, le temps des kataïb est terminé, seule l'armée nationale doit exister. Qu'y a-t-il derrière cette parole modérée de Mustafa Sadr, qui n'en est pas, d'ailleurs, de ces chefs modérés qu'on connaît? Bah, tout simplement le ralliement à une cause qui verra l'Irak aussi se ranger dans ses accords et normaliser avec le futur État puissant d'Israël. La Syrie elle-même, Al-Shara, après sa visite de Washington, ne fait qu'accepter toutes les conditions, même la cessation du Golan et l'Issouaïdat de l'État druze. Et à partir de là, ce sont les druzes eux-mêmes qui ont annoncé qu'ils ne reviendront jamais dans l'État de Syrie. Et cela suppose aussi, pour que Al-Shara refuse les milices et se concentre autour d'une unité nationale tout en cédant ses minorités, c'est que la Syrie, elle aussi, va vers la normalisation. Reste le Liban. En même temps qu'Israël mène cette bataille contre la milice de Hezbollah, qui est considérée aujourd'hui par le gouvernement libanais comme une milice hors la loi. Ce qui fait du gouvernement libanais un gouvernement d'État qui va vers la normalisation avec Israël, et les négociations à Washington continuent parallèlement à ces bombardements. Ce qui prouve qu'aujourd'hui, il y a séparation totale entre la politique de l'État libanais et ce qu'on a appelé jadis la résistance du peuple chiite et sa milice. Or, aujourd'hui, la milice de Hezbollah, elle est séparée même de la majorité de son peuple chiite, qui ne peut plus supporter cette idée d'une destruction totale de ses villages et d'être réduit à devenir un peuple sous les tentes, comme disait Arafat, du peuple palestinien. Alors si vous calculez tous ces pays les plus importants, l'Égypte et la Jordanie en état de paix avec Israël, la Syrie, le Liban, l'Irak, des États qui vont vers la normalisation et qui ne peuvent pas supporter d'une guerre en Israël, reste que la guerre iranienne et la deuxième étape de cette guerre se préparent, car Israël n'acceptera jamais de laisser l'Iran et son régime revenir à une puissance jadis présentée comme par Khomeini et Khamenei comme étant la puissance ressuscitée de Cyrus et toutes les autres puissances impériales de l'antique Perse. Que le temps nous aide à comprendre ces paradoxes et surtout cette idée de l'âge d'or du Proche-Orient qui s'annonce. Voilà, Bach annonce l'âge d'or par l'oratorio de Noël, et ses trompettes, et puis Trump à Washington, nous annonce l'âge d'or du Proche-Orient. Et il faut dire qu'il a l'art de la communication à un niveau que les Européens n'arrivent pas à comprendre, et parler de tergiversation et puis de la faiblesse des États-Unis, en même temps d'âge d'or du Proche-Orient. Aujourd'hui, je n'ai pas pu joindre Beyrouth, ils sont sous les bombes. Les portables sont ingénables, le passage du fleuve de Litanie inquiète beaucoup de monde. Les généraux que j'invitais d'habitude sont très en alerte. Les maires supérieurs ont leurs écoles détruites. C'est pourquoi je vous demande pardon de n'avoir pas un invité libanais, mais j'ai des invités qui viennent d'un côté de Rome, comme toujours, l'antique Rome, et qui nous a appris, comme disait Bossuet, le sens de tous les empires, et qui en a fait toute la synthèse, et c'est toujours la chère Marie-Louise Malfette qui nous fait les chroniques romaines. Est-ce que Marie-Louise est avec moi? Marie-Louise, elle m'entend?
Oui, oui, voilà. C'est bon,
voilà. Je vois un RC derrière vous, donc on vous voit très bien. RC, si je comprends bien, c'est la Rome incomparable, c'est ça, ou Radio Courtoisie. Et je vois l'autre invité pour un autre thème qui nous est cher dans cette émission, pour cette jeunesse qui, aujourd'hui, est le signe d'une nouvelle génération à la Sorbonne, ce qui a poussé à la nouvelle génération à créer une association pour la défense et la chapelle et la culture de la chapelle de la Sorbonne, où se repose toujours notre Richelieu et son chapeau qui couvre tout. N'est-ce pas, Marie Guyot, qui préside cette association, est avec nous ?
Tout à fait, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui.
Voilà, on va essayer de vous écouter sous forme de chronique pour que vous ne soyez pas interrompu. Et je salue Alexandre Approval parce qu'on cite toujours son nom et je tiens à ce que toujours son nom soit cité avec moi. Mais Alexandre ne participe plus à cette émission, sauf comme mon invité un jour, je vous l'inviterai, mais il n'anime plus avec moi, il vous salue, et la prochaine fois, il sera mon invité pour des questions différentes qui l'intéressent, et vous entendrez sa voix comme un invité, comme j'étais un peu le sien. Et nous commençons par la chronique romaine de Marie-Louise Malfette, qui a voulu s'attaquer à un de nos écrivains le plus modeste, Chateaubriand et Rome. N'est-ce pas, Marie-Louise ?
Absolument.
Nous vous écoutons.
J'ai choisi un tout petit sujet, comme vous pouvez le voir. Et en effet, je suis partie d'une réflexion sur la présence des grands esprits français à Rome. Évidemment, mon regard s'est tout de suite porté sur Chateaubriand. Peut-être aurais-je aussi l'occasion une autre fois, c'est-à-dire que ce sont vraiment ces grands noms de la littérature française qui ont eu une expérience tout à fait personnelle à Rome, dans des circonstances à chaque fois particulières, et qui en ont tiré de très très beaux textes. Et donc c'est de cela que je voudrais parler aujourd'hui, du rapport de Chateaubriand à Rome et de ce qu'il a fait de ces textes, comment est-ce qu'il a célébré la ville éternelle. Et alors, inutile de présenter Chateaubriand, ce grand monument de la littérature, 1768 et 1848, donc une période de l'histoire de France absolument effervescente et très riche en événements. Et qu'en est-il de Chateaubriand à Rome ? Eh bien, Chateaubriand arrive à Rome d'abord en 1803, en tant que premier secrétaire d'ambassade. Il a été envoyé par Napoléon, Et pour cause, puisqu'il est le premier secrétaire du cardinal Fesch, oncle de Napoléon. Cependant, Chateaubriand ne reste que 6 mois à Rome, puisque disons qu'il est un diplomate assez maladroit, et donc il est remercié assez rapidement. Mais c'est en tout cas une première expérience qui l'émerveille, vraiment un émerveillement dans les textes qu'il écrit sur Rome, mais aussi une certaine tristesse à partir du moment où il perd sa maîtresse Pauline de Beaumont, et donc où ses réflexions se portent sur les ruines avec mélancolie, comme il sait si bien le faire. Mais c'est aussi à ce moment-là, figurez-vous, qu'il a l'idée d'écrire des mémoires, puisque dans les mémoires d'Outre-Tombe, il dit « C'est à Rome que je conçus pour la première fois l'idée d'écrire les mémoires de ma vie ». Il parle du premier séjour qu'il a fait à Rome, donc en 1803. Donc, déjà, on a un lien absolument magnifique entre Chateaubriand et son œuvre, puisque c'est à Rome que naît l'idée des mémoires d'Outre-Tombe. Ensuite, Chateaubriand reviendra en 1828, où pendant un an, il sera cette fois-ci ambassadeur de France à Rome. Et donc, c'est aussi là qu'il laisse sa trace en tant que cette fois grand diplomate. Et c'est peut-être aussi pour cela qu'on l'a choisi en 1934 comme symbole, c'est vraiment intéressant, comme symbole du dialogue franco-italien, puisqu'en 1934 est inauguré le buste de Chateaubriand à Rome, que l'on trouve aujourd'hui près de la Trinité des Monts. Et ce buste est inauguré en présence de Mussolini et d'une délégation française pour symboliser justement le rapprochement entre la France et l'Italie et le dialogue diplomatique dans une Europe, comme vous pouvez l'imaginer, où les dialogues et les symboles sont importants à ce moment-là. Et donc, comment est-ce qu'on retrouve les impressions de Chateaubriand sur Rome ? Eh bien, dans ses écrits, évidemment. Le Voyage en Italie, publié en 1827, est, disons, l'œuvre qui, principalement, retrace le mieux sur la ville éternelle. Et Chateaubriand raconte l'Italie, ton voyage en Italie, comme une importante étape du Grand Tour. Grand Tour, donc ce grand parcours qu'on faisait en Europe pour, disons, se perfectionner en connaissance des arts et des mille savoirs. Et donc le voyage en Italie en 1827, eh bien, se rapporte au premier séjour de Chateaubriand en Italie entre 1803 et 1804, justement quand il était premier secrétaire d'ambassade. Dans ce récit, on peut dire qu'il est un anti Dubélé. Je pense que l'image est assez pertinente puisque Dubélé lui-même était venu avec un cardinal comme secrétaire d'un cardinal, son oncle. Et cette fois-ci, c'est Chateaubriand qui vient avec un autre cardinal. Plus tard, évidemment, dans un autre contexte historique, mais là où Dubélé a vraiment une lecture pessimiste, déçue de Rome, qui pleure la décadence de Rome, eh bien, on a un Chateaubriand qui est en extase, qui ne pleure pas du tout l'exil et qui même regrette de ne pas pouvoir avoir plus de temps pour célébrer la ville éternelle, malgré sa décadence, puisqu'on va le voir, il n'hésite pas à l'évoquer. Et Voyage en Italie se conçoit comme un carnet de voyage. Chateaubriand y rapporte son itinéraire et les villes, les lieux qu'il visite. Le style est parfois très narratif, parfois succinct, comme des notes de voyage. Et l'auteur y inscrit des questionnements, des curiosités, des petites réflexions. Donc c'est assez personnel en effet. Et parfois on a des listes, des œuvres d'art qu'il voit dans les musées, au Vatican, ou dans les galeries, comme Doria Pamphili. Et cette œuvre se clôture sur la lettre à Fontaine qui parle de la campagne romaine et qui est vraiment un très beau texte. Alors, je vais tout de suite vous lire deux extraits pour vous donner vraiment l'idée disons, la contemplation de Chateaubriand face à Rome. Et dans le voyage en Italie, on a un formidable extrait qui s'appelle Promenade dans Rome, au clair de lune. Et donc, ce n'est pas très long, je peux vous le lire intégralement. Qui va vraiment vous donner une idée des différents styles de voyage en Italie et aussi de vraiment la latitude de ce grand auteur face aux vieilles pierres de Rome. Donc je commence la lecture.
Nous vous écoutons.
Du haut de la Trinité du Mont, les clochers et les édifices lointains paraissent comme les ébauches effacées d'un peintre ou comme des côtes inégales vues de la mer, du bord d'un vaisseau à l'ancre. Ombre de l'obélisque. Combien d'hommes ont regardé cette ombre en Égypte et à Rome? Trinité du Mont déserte. Un chien aboyant dans cette retraite des Français. Une petite lumière dans la chambre élevée de la Villa Médicis. Le cours. Calme et blancheur des bâtiments. Profondeur des ombres transversales. Place Colonne. Colonne Antonine à moitié éclairée. Panthéon. Sa beauté au clair de lune. Colisée. Sa grandeur et son silence à cette même clarté. Saint-Pierre. Effet de la lune sur son dôme, sur le Vatican. Sur l'obélisque, sur les deux fontaines, sur la colonnade circulaire. Une jeune femme me demande l'aumône. Sa tête est enveloppée dans son jupon relevé. La Povelina ressemble à une Madone. Elle a bien choisi le temps et le lieu. Si j'étais Raphaël, je ferais un tableau. Le Romain demande parce qu'il meurt de faim. Il n'importune pas si on le refuse. Comme ses ancêtres, il ne fait rien pour vivre. Il faut que son Sénat ou son prince le nourrisse. Rome sommeille au milieu de ses ruines. Cet astre de la nuit, ce globe que l'on suppose un monde fini et dépeuplé, promène ses pâles solitudes au-dessus des solitudes de Rome. Il éclaire des rues sans habitants, des enclos, des places, des jardins où il ne passe personne, des monastères où l'on n'entend plus la voix des cénobites, des cloîtres qui sont aussi déserts que les portiques du Colisée. Que se passait-il il y a 18 siècles, à pareille heure et au même lieu? Non seulement l'ancienne Italie n'est plus, mais l'Italie du Moyen Âge a disparu. Toutefois, la trace de ces deux Italies est encore bien marquée à Rome. Si la Rome moderne montre son Saint-Pierre et tous ses chefs-d'œuvre, la Rome ancienne lui propose son Panthéon et tous ses débris. Si l'une fait descendre du Capitole ses consuls et ses empereurs, l'autre amène du Vatican la longue suite de ses pontifes. Le Tibre sépare les deux gloires. Assise dans la même poussière, Rome païenne s'enfonce de plus en plus dans ses tombeaux, et Rome chrétienne redescend peu à peu dans les catacombes d'où elle est sortie. J'ai dans la tête le sujet d'une vingtaine de lettres sur l'Italie, qui peut-être se ferait lire si je parvenais à rendre mes idées telles que je les conçois. Mais les jours s'en vont et le repos me manque. Je me sens comme un voyageur qui, forcé de partir demain, a envoyé devant lui ses bagages. Les bagages de l'homme sont ses illusions et ses années. Il en remet à chaque minute une partie à celui que l'écriture appelle un courrier rapide, le temps. Alors voilà. Voilà ce que dit Chateaubriand en quelques lignes de cette promenade dans Rome que je trouve c'est presque une rêverie. En fait, on suit progressivement le regard du narrateur qui se déplace de monument en monument. Vous avez ce style assez abrupt au départ avec cette liste de monuments et ce qu'il observe presque vraiment comme des notes techniques. Mais on imagine bien Chateaubriand debout, l'air mélancolique, contempler ce paysage multiséculaire avec lequel il voudrait dialoguer, il essaie de dialoguer. Et après ce style un peu abrupt, sans artifice, du poète observateur, on passe à un style beaucoup plus fluide, à une vraie réflexion sur Rome et les Romains, ceux du présent et ceux du passé. Et le dernier mot révèle la clé de voûte de l'extrait, l'objet de cette réflexion romantique, le temps que Chateaubriand on essaie de peindre par les mots, et j'aimerais vraiment retenir cette idée que Chateaubriand se présente comme un peintre par les mots. Il dit, si j'étais Raphaël, je ferais un tableau. Eh bien, c'est un Raphaël de la littérature, puisqu'il peint ce qu'il voit à travers les mots, et son choix lexical est toujours aussi magnifique et vraiment contemplatif. Et donc, ça, c'était mon premier extrait sur la ville de Rome, et puis j'aimerais vous lire un plus court extrait, rassurez-vous, sur la campagne romaine pour compléter le tableau, disons, et terminer. Et puisque, si nous pourrons le voir plus tard, Stendhal aussi parle de la campagne romaine et de façon très différente. Disons que la campagne romaine complète la ville. Ça fait vraiment partie du décor. Et justement, il faut imaginer que Rome à l'époque a beaucoup plus de campagnes qu'aujourd'hui, donc elle se voit beaucoup plus depuis la ville de Rome. Je vous lis aussi
On
ce
vous
passage
écoute. Voilà,
qui est la
ils ont.
lettre à Fontane, donc la partie finale du voyage en Italie. Donc je commence. Il parle de la campagne romaine. Si vous les voyez en économistes, elles vous désoleront. Si vous les contemplez en artistes, en poètes et même en philosophes, vous ne voudriez peut-être pas qu'elles fussent autrement. L'aspect d'un champ de blé ou d'un coteau de vigne ne vous donnerait pas d'aussi fortes émotions que la vie de cette terre dont la culture moderne n'a pas rajeuni le sol et qui est demeurée antique comme les ruines qui la couvrent. Rien n'est comparable pour la beauté aux lignes de l'horizon romain, à la douce inclinaison des pans, aux contours suaves et fuyants des montagnes qui le terminent. Souvent, les vallées dans la campagne prennent la forme d'une arène, d'un cirque, d'un hippodrome. Les coteaux sont taillés en terrasses comme si la main puissante des Romains avait remué toute cette terre. Une vapeur particulière répandue dans les lointains arrondit les objets et dissimule ce qu'ils pourraient avoir de dur ou de heurté dans leur forme. Les ombres ne sont jamais lourdes et noires. Il n'y a pas de masse si obscure de rochers et de feuillages dans lesquels il ne s'insinue toujours un peu de lumière. Une teinte singulièrement harmonieuse marie la terre, le ciel et les eaux. Toutes les surfaces, au moyen d'une gradation insensible de couleurs, s'unissent par leurs extrémités sans qu'on puisse déterminer le point où une nuance finit et où l'autre commence. Vous avez sans doute admiré dans les paysages de Claude Lorrain cette lumière qui semble idéale et de plus belle et plus belle que nature. Eh bien, c'est la lumière de Rome. Voilà, second extrait très très beau qui au départ semble un éloge paradoxal et qui parle de désolation. Et puis ensuite, Chateaubriand s'adonne à une poétique description de la nature dont le maître mot est la lumière. Là encore, le narrateur se présente comme un peintre par les mots, un observateur contemplatif et enthousiaste de la lumière des paysages. Et donc, finalement, on dit souvent que pour l'artiste, la lumière est très importante. Bien pour Chateaubriand aussi, la lumière est vraiment un élément, une clé de lecture de la poésie d'un paysage. Et alors voilà, pour conclure, dans ses visites romaines, Chateaubriand décrit les monuments dans un premier temps et ensuite il laisse pénétrer son âme, de même pour la campagne. C'est vraiment le grand romantique qui s'exprime. Et là où d'autres auteurs comme Stendhal peuvent se heurter à la limite des mots qui voudraient déclamer leurs impressions à voix haute, eh bien Chateaubriand est vraiment un auteur de l'écrit qui transcende les mots et en fait des pinceaux au service de sa poésie. Et donc j'ai conclu ma chronique aujourd'hui.
Mais pour vous remercier de cette chronique, et avant de vous poser quelques questions, je laisse Chopin nous un peu répondre par le 18e prélude en fa mineur, interprété par Erich Heitzig. Voilà, le 18e prélude en fa mineur de Chopin, interprété par notre grand Terry Kaitzik. Et je vous ai promis d'écouter l'intégralité, nous en sommes au 18e. Et on a l'impression, c'est la descente de l'escalier de Mont-de-la-Trinité par Chateaubriand, la fin de la gamme de ce prélude. Et c'est pourquoi, merci pour cette excellente chronique, chère Marie-Louise. La première remarque, vous avez parlé des maladresses de Chateaubriand, bah, il semble que ça a commencé par son attitude en arrivant avec le cardinal Fesch et qui retrouve sur son bureau un exemplaire du génie du christianisme. Et le cardinal qui ne l'a pas demandé était très étonné. C'est comme si Chateaubriand voulait lui dire « Attention, vous n'avez pas qu'un secrétaire. Vous avez l'auteur du best-seller de l'époque, parce que c'était un best-seller. » Et le cardinal n'a pas aimé. C'est l'oncle de Napoléon, il est un peu corse, donc on ne chatouille pas. Et après, il y a eu quelques remarques où il a noté, le cardinal, que ça manque de modestie. Quoi. C'est pas les moines dominicains qui en l'entourent. Ça, c'est pour sa maladresse. Et la deuxième chose, vous avez bien dit de le comparer à Stendhal, et vous nous faites une chronique sur Stendhal un peu séparée, parce que les deux, comme je disais, ce sont des auteurs modestes, d'où l'écriture sur l'égotisme chez Stendhal, et puis le fait qu'il se croyait un Napoléon, Chateaubriand, même s'il sera déçu. C'est finalement sa lecture des mémoires et des souvenirs de Goethe. Parce que Goethe, quand il était à Rome, arrivé là, il se considérait lui aussi devant ses ruines, et Chateaubriand, agacé par Goethe, il disait « Cet homme, c'est le philosophe de la matérialité », et il l'aimait pas beaucoup, il voulait dépasser cette figure un peu germanique, il voyait que, un peu, il a raison, que le Christ était absent chez Goethe, et que Werther était bien meilleur, mais tout cela... un prolongement romantique. Vous avez cité la comparaison avec Dubélet et les regrets de la France natale, puisqu'il s'ennuyait là-bas. On peut dire que chez Chateaubriand, il y a un prolongement du romantisme et une certaine idée. Vous avez très bien fait à la fin de comparer la Rome païenne et la Rome chrétienne, parce que chez Chateaubriand, il y a cette idée finalement que seul le christianisme, et là, elle est très très juste, cette idée. Seul le christianisme est capable de nous faire supporter notre condition misérable sur terre, qui va vers le néant, puisqu'il nous promet en même temps les gloires par les mystères, comme le Christ nous les promet. Mais il faut passer par ce néant. Et ce néant, c'est le romantisme un peu. C'est l'état de Sturm und Drang, comme dit Goethe, l'infini, mais il y a aussi le christianisme qui est le seul capable. Et c'est pourquoi il prend l'exemple, curieusement, dans ses mémoires, et dans le génie aussi, il recommence, les pères du désert, que finalement les pères de l'Église étaient les premiers romantiques, quelque part, qui ont vécu ce dénuement de l'âme en attendant la gloire. Et Rome, c'est un peu la synthèse de ces deux-là. Alors ça, mes remarques pour un peu varier sur vous, mais ma question, est-ce que vous, qui êtes romaine encore jusqu'à cet été, qui êtes à moitié italienne, vous avez Rome dans le sang, mais est-ce que vous sentez dans ceux d'aujourd'hui, ces gens qui, avec leur, qui regardent plus leur GPS, leur portable, que les ruines et l'église, et est-ce qu'il y a cette observation de Rome où, comme Paris et toutes les capitales, il y a un esprit de tourisme qui étouffe ce rapport que vous sentez, parce que vous avez pris l'angle qu'il faut de l'imaginaire du poète, où il y a une décadence. Quelle est votre réponse?
Disons que Rome telle que je la parcours tous les matins est une Rome de la foule, une Rome du tourisme de masse, dans laquelle il est assez difficile de se retrouver dans les conditions que Chateaubriand décrit, sur l'escalier de la Trinité des Monts, où il n'y a personne, sinon une jeune femme qui demande l'aumône. Enfin voilà, ça n'existe plus, sauf peut-être à 3 heures du matin. Donc il faut se nourrir d'imagination, disons, pour retrouver la poésie des pierres et se laisser envoûter en fait par la ville. Et je pense que le touriste moyen ne va pas chercher la poésie. Le touriste moyen cherche juste à cocher la case des monuments à visiter. Toutefois, et j'invite vraiment les intéressés à le faire, il y a une façon de visiter n'importe quelle ville, je pense même dans le monde, sous l'angle de ces grands artistes qui nous les décrivent. Et ça donne tout de suite beaucoup plus d'épaisseur à l'expérience.
Voilà, ils nous prêtent leur regard. Alors, Marie-Louise, restez avec nous. On va vous offrir un autre prélude de Chopin, le 19e en mi bémol majeur, toujours par Erik Heitzig. Et je laisse Marie Guyot du fond de la chapelle de la Sorbonne avec Richelieu qui lui prend la main et préparer pour nous sa chronique sur cette chapelle, son association et toutes les questions que nous aurons à lui poser. Marie-Louise nous sera toujours avec nous. Voilà, comme un éclair, Marie Guyot va introduire sa chronique sur la chapelle de la Sorbonne, nous parler de son association. Et après vos deux chroniques, j'aimerais bien qu'il y ait un dialogue entre vous. Les questions que Marie Guyot aura posées à Marie-Louise sur Rome, et puis vice-versa, Marie-Louise sur cette Sorbonne dont elle est issue. Alors, Marie Guyot, à vous la parole.
Tout à fait. Bon, on n'aura pas trop de peine à échanger un dialogue puisqu'on se connaît avec Marie-Louise par la chapelle de la Sorbonne et grâce à elle. Donc on est ravis de la retrouver en septembre à son retour. Donc
Merci beaucoup.
après cette petite chronique romaine, hélas, je ne vais pas vous parler de Châteaubriand, à mon grand regret, mais simplement vous parler de l'histoire de cette chapelle de la Sorbonne, qui a une histoire multiséculaire jusqu'à nos jours, en débutant par Robert de Sorbonne, évidemment, au XIIIe siècle, qui construit l'université qui va s'édifier peu à peu, bien sûr, de théologie, qui va rassembler des centaines d'étudiants et faire la renommée de ce qui deviendra la Sorbonne par la suite. Et elle devient ce centre culturel, intellectuel, spirituel également, car évidemment, ce sont des clercs qui apprennent la théologie. La Sorbonne, avec l'arrivée de Richelieu en tant que principal ministre sous Louis XIII, va se doter d'un véritable programme architectural. En 1627, nous fêterons l'année prochaine son l'anniversaire de la première pierre déposé de l'université de la Sorbonne, qui avait été déposé lors du siège de La Rochelle, donc pas par Richelieu, mais par l'un de ses amis évêques. Et quelques années plus tard, en 1635, la journée des dupes est alors passée et il s'agit alors pour Richelieu de manifester tout son pouvoir par un programme architectural à la hauteur de sa politique. Politique très ferme, je ne reviens pas là-dessus. Et il choisit Jacques Lemercier pour construire cette chapelle qu'il pense, à l'approche de ses vieux jours, comme un mausolée. Et donc ce mausolée qu'il va construire en dialogue avec Lemercier s'identifie par une architecture tout à fait classique que certains considèrent comme l'un des premiers programmes de l'architecture Louis XIII. avec cette magnifique coupole sur laquelle on reviendra avec ces médaillons signés par Philippe de Champaigne qui représentent les quatre docteurs de l'Église, Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Jérôme, Saint Grégoire, qui dès lors plantent le décor de cette chapelle de la Sorbonne, puisque c'est la chapelle des intellectuels et de ses étudiants également. Donc je l'ai dit, Richelieu voulait que cette chapelle soit sa dernière demeure. Hélas, il meurt avant d'avoir choisi lui-même son tombeau, et c'est sa nièce, la duchesse d'Aiguillon, qui sera chargée de l'élaboration de ce tombeau. Alors, c'est toute une aventure pour construire ce tombeau qui sera finalement dessiné par Girardon, puisque les deux précédents, architectes Berthelot et Guyant décéderont un petit peu plus tard. Donc finalement, le choix se porte sur Girardon, dont la duchesse d'Aiguillon signe le projet 2 jours avant son décès. Finalement, le tombeau est donc livré bien après le décès de Richelieu. Et l'on retrouve encore aujourd'hui ce magnifique tombeau de Richelieu. Richelieu soutenu par l'allégorie de la piété et à ses pieds l'allégorie de la doctrine chrétienne pleure la mort de Richelieu. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans le pathos le plus total par ce tombeau de Richelieu. Donc ça, cette première période vraiment de l'édification de cette chapelle du grand siècle. Et puis un grand bond dans le temps, je passe à côté des affres de la Révolution qui malmènent considérablement le tombeau de Richelieu, Alexandre le Noir conservera tout de même ce tombeau au musée des Petits Augustins, donc sur les quais que l'on peut toujours apercevoir aujourd'hui, et conserve quand même quelques éléments architecturaux majeurs qu'on retrouve encore aujourd'hui. Passé cette période révolutionnaire, durant l'Empire, il est question pour la chapelle de la Sorbonne d'en faire des amphithéâtres. D'en faire des amphithéâtres, puisque 5 facultés sont alors créées. Et donc la chapelle est alors envisagée comme un amphithéâtre, un deuxième, sur plusieurs niveaux. Mais finalement, c'est sans doute la fibre artistique d'Alexandre le Noir qui va faire de cette chapelle un atelier d'artiste. Et donc, on aura une résidence d'artistes de 1800 à 1821, qui accueillera par ailleurs David d'Angers, par exemple. Et de cette période, on gardera un des plus fameux tableaux d'Hubert Robert, qui est daté environ des années 1800, et qui dépeint l'église, qu'il appelle l'église de la Sorbonne, nef et voûte effondrées. Donc là, nous sommes encore dans une vision des ruines très romantiques. On en parlait tout à l'heure avec Marie-Louise, ces ruines de Rome. Et bien, on retrouve finalement les mêmes. Hubert Robert copie Chateaubriand, finalement. Et puis, nous passons à la période romantique, et notamment à la Restauration, où le culte catholique revient dans la chapelle de la Sorbonne. Et il faut alors doter la chapelle de la Sorbonne d'un orgue à la hauteur de ces lieux. Et donc, Dallery est choisi en 1825 pour l'édification de cet orgue qui est considéré comme la transition en fait de l'ère Cliquot et de l'ère Cavaillé-Coll, dont on a plusieurs exemples dans nos églises parisiennes. Et cet orgue Dallery est le seul conservé dans son état originel. Cela se comprend très vite, puisqu'en fait, cet orgue n'a pas été très longtemps pratiqué, et finalement, le culte s'arrête en 1906, conséquence de la loi de séparation de l'Église et de l'État, et donc la chapelle perd peu à peu de son utilité cultuelle. Dans les années, à partir des années 30, des années 30-40, il y a quand même 2 messes qui sont célébrées par an, l'une en novembre pour les étudiants de la Sorbonne et l'autre le 4 décembre pour une messe de Requiem pour Richelieu et sa famille.
tel qu'il était prévu dans son testament. L'histoire ne s'arrête pas là et nous passons désormais à la période de résistance et de l'occupation de Paris. En effet, la résistance fut intense à la Sorbonne et de nombreux professeurs se lèvent contre l'oppression nazie. Et hélas, de nombreux professeurs se voient fusillés en 1945 et rejoignent les cendres des étudiants du lycée Buffon, qui eux aussi s'étaient levés contre l'oppression, contre l'occupation, et avaient été fusillés en 1943. Un petit peu plus tard, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, ces résistants, ces professeurs, on compte par exemple Jean Cavaillès, qui est resté dans les mémoires, trouvent leur dernière sépulture, leur dernière demeure dans la crypte de la Sorbonne, que l'on peut toujours voir, où il y a quelques tombes encore, et une urne funéraire avec les cendres de ces étudiants du lycée Buffon. L'histoire ne s'arrête pas là, mais je laisse Antoine Assaf nous conter, nous narrer ensuite les projets qu'il y a eu pour passer ensuite à la création de notre association en 2023.
Bah, je suis passionné par votre chronique parce que vous avez vraiment repris l'essentiel et fait vivre une chapelle qui, quand on arrive devant la place de la Sorbonne, il y a les agrégatifs qui se jettent sur la librairie Vrin pour acheter des livres, il y a les affamés qui vont dans les restaurants à droite pour s'asseoir et beaucoup prennent une photo devant cette façade. Sans connaître même les noms des deux statues des deux moines qui, sont rentrés, les guides parlent d'elle comme une chapelle fermée, mais notre génération qui a essayé d'avoir une association, c'était autant de mentionner à Lustiger, les étudiants de l'assemblée de l'aumônerie et du président Bonfils à l'époque, et il nous a été permis, parfois, ce n'est pas arrivé souvent, de célébrer une messe pour l'âme de Richelieu. Est-ce que vous, dans votre association, vous avez pensé proposer une prière pour Richelieu dans cette église qui sert d'exposition parce qu'elle est toujours consacrée? Est-ce que l'idée a été proposée à condition que la famille elle-même, les descendants, le demande, et nous avons réussi à l'avoir. C'était une fois par an.
Oui, alors nous avons de très bons liens avec la famille des descendants de Richelieu. La branche s'est éteinte dans les années 60. En revanche, voilà, notre association pour le rayonnement de la chapelle de la Sorbonne est aconfessionnelle et apolitique. Donc ce n'est pas du tout le centre de notre action. Et nous avons choisi le terme de rayonnement qui permettait en fait l'hybridation des différentes volontés, mais avant tout son rayonnement par la connaissance de son histoire. Et c'était pour répondre à une demande, à deux demandes, dirais-je. La première, c'est de faire savoir, faire connaître aux étudiants de la Sorbonne qu'il existe une chapelle architecturalement exceptionnelle. Et la seconde, de la faire réouvrir après des dizaines d'années de fermeture. Alors, on date vraiment la fermeture presque totale de la chapelle à partir de mai 68, où vraiment les débats étaient très polarisés, et certains manifestants voulaient l'abolition totale de cette chapelle, pour la rase, etc. Là, il y a un slogan qui me revient en tête, on ne peut pas penser librement à l'ombre d'une chapelle. Heureusement, on a totalement dépassé ce climat très polarisé de nos jours. Et donc, on parle en toute intelligence entre la chancellerie des universités de Paris, l'aumônerie qui a aussi son mot à dire là-dedans, et le diocèse, voilà. Et la mairie de Paris, qui en est propriétaire.
Tout à fait.
C'est un travail de diplomatie.
Nécessaire, mais le fameux chapeau du cardinal bouge parfois. Hein, et ça, il a un peu de poussée. Vous avez le droit d'organiser des concerts à l'intérieur de la chapelle?
Alors, ce serait notre grand projet. En effet, on aimerait bien quand même voir le galéro de Richelieu tomber sous nos yeux, parce que pour l'instant, visiblement, il n'a toujours pas gagné son ciel. Mais bon, on lui souhaite de voir son galéro tomber un jour. Et donc, pour l'instant, devant la fermeture de cette chapelle, Nous avons organisé de nombreuses conférences en Sorbonne, à l'École du Louvre également. Le projet futur et serait évidemment d'organiser un concert, une exposition. Ça, c'est vraiment tout le programme culturel que nous avons depuis le début de notre association. Et puis, nous sommes tout d'abord très heureux puisque depuis novembre dernier, nous avons vu l'inscription de la chapelle de la Sorbonne à la watchlist des World Monument Fund, donc qui scelle le début des restaurations de la chapelle de la Sorbonne. Donc j'espère que l'année prochaine, 2027, nous pourrons fêter l'anniversaire de la première pierre à l'intérieur de la chapelle avec, pourquoi pas, un très beau concert.
Oui, surtout que là, vous avez cité l'orgue Cliquot, il y avait deux célèbres organistes et musiciens, Félix Clément et Alexandre Choron, qui ont composé beaucoup, et ça serait bien quand, à l'époque de Michel Rouche, Alain Lanavert, Pierre Boutan, qui ont un peu œuvré avec le président Bonfils pour cette association, et le but était le même, c'est-à-dire on voulait ranimer un peu l'âme. Il ne s'agit pas de reconquérir l'Église, de faire un sit-in et d'obliger un prêtre en soutane à célébrer la messe avec le sabre. Mais quand même, il y a eu quelques attitudes positives. Personne n'a été jusqu'à comme Sartre. N'est-ce pas? Marie-Louise Malfette là, connaît l'histoire, peut-être qui a été sur la tombe de Chateaubriand à Malon faire un geste très, très, très sale et sans aucune éducation, n'est-ce pas? Mais il l'a regretté. Et pour revenir à cette chapelle, nous nous sommes toujours posé une question, et d'ailleurs, un des auditeurs m'envoie une question, celle que j'allais vous poser. À votre avis, le chapeau date de quand? Le chapeau du cardinal.
Alors, j'imagine que Richelieu a dû le recevoir lors de son.
Est-ce
son
qu'il a été posé à l'origine, ou je crois que c'est juste avec le. Quand sa nièce, l'héritière, je crois que c'est elle qui avait ce chapeau et qui l'a posé. Ça doit dater de cette époque.
Tout à fait, parce qu'à l'époque, en effet, le tombeau n'avait pas encore été déposé à l'intérieur de la chapelle.
Il veille. Alors, alors, je vais vous laisser dialoguer entre vous maintenant. Marie-Louise Malfette, qui vous posera une question sur votre chronique, et vice-versa. Déjà, Marie Guyot, le prochain concert donc sera. Vous avez préparé. Il y a quelque chose de fixé qu'on puisse annoncer à. Nos auditeurs.
Tout à fait. Alors, nous sommes en bon dialogue avec l'église Saint-Séverin et avec notre ami Axel de Marniac qui nous proposera un concert d'orgue.
Qui est organiste à Saint-Sulpice. Il est organiste de
oui,
chœur d'orgue de
chœur. Il est à Saint-Sulpice.
Très, très brillant, très brillant, très
tout
doué.
À fait. Le plus jeune reçu après Camille Saint-Saëns, donc quand même, c'est un sacré titre, et qui nous fait la joie d'une improvisation en l'honneur de la chapelle de la Sorbonne. Donc ce sera l'occasion de l'écouter. Pour l'instant, l'orgue de Saint-Séverin n'est pas opérationnel, donc je cherche peut-être à organiser quelque chose sur l'orgue du Val-de-Grâce. Ce serait cohérent. Architecturalement, historiquement, puisque l'église du Val-de-Grâce, celle de la Sorbonne, se faisait face dans le 5e arrondissement par leurs coupoles respectives.
Oui, ça serait bien de. Oui, on vous écoute.
Et nous avons évoqué l'idée avant l'émission, chez Antoine SF, d'un prochain concert de piano, sans doute, cette fois-ci dans l'amphithéâtre de la Sorbonne.
Ou pas.
Et pour l'instant.
Pas la chapelle.
Oui.
On ne peut pas mettre un piano.
La chapelle, ce sera compliqué. Il faut d'abord attendre les travaux, soyons patients.
Oui, on a peur de réveiller Richelieu. Et
oui.
qu'il me dise « Qu'avez-vous fait de mon chapeau ?»
C'est
Parce
ça.
Que il fallait.
Surtout, peut-être pas faire jouer les grandes orgues de suite.
Ah oui, il fallait le dépoussiérer. À l'époque, avec Michel Rouche, on était furieux. On rentrait, il y avait beaucoup de poussière. Il faut des instruments assez délicats pour le dépoussiérer sans le faire tomber. Hein.
Oui,
ça,
j'imagine.
C'est là. Alors, moi, je proposerais à Alex de Marnac, que je connais bien et que j'écoute à Saint-Sulpice, quelques thèmes de l'ancien organiste de la chapelle, Choron, et Félix Étienne, sur lesquels il peut improviser. pour honorer ces deux organistes qui furent très brillants, comme au 19e, on le savait. Alors, Marie Guyot, avez-vous une remarque sur cette chronique romaine qui, quand même, honore aussi nos chapelles et nos... Ce sont deux cardinaux, là, qui s'affrontent, Fesch et Richelieu. Une remarque à faire à Marie-Louise sur sa chronique, parce que je ne vous ai pas donné le temps de le faire.
Tout à fait. Bon, en même temps, on était imprégnés par la chronique de Marie-Louise et son bel itinéraire. Surtout moi qui suis amoureuse folle de Chateaubriand. Donc voilà, j'étais très heureuse d'écouter son regard sur Rome. Et puis, j'avais une réflexion en fait sur le tourisme dont on a un petit peu parlé de nos jours. Et finalement, à l'époque de Chateaubriand, il y avait déjà le tourisme, mais c'était le grand tour. Et donc, on était déjà accompagnés des grands auteurs. Et c'est peut-être ça qui nous manque désormais, d'être toujours un livre à la main, avec un guide de voyage, mais aussi avec un peu de Chateaubriand quand on visite Rome.
Peut-être à l'occasion du concert de septembre, si on arrive à monter à l'amphithéâtre Chaulieu, nous pourrons profiter pour faire des lectures de Chateaubriand et de Claudel, par exemple, de Paul
et
Claudel.
De Claudel.
Mais, je fais partie de l'association de Paul Claudel. On peut leur demander à une comédienne de talent de venir nous reciter dans cet amphithéâtre aussi bien Claudel que des textes de Chateaubriand. Marie-Louise, alors, qu'avez-vous pensé de
ça? Chateaubriand, je suis heureuse, forcément.
Alors, le projet de la chapelle, vous faites partie de cette association, Marie-Louise, n'est-ce pas?
Oui, absolument. J'ai cette grande joie et je suis vraiment admirative de ce qui a été fait cette année pour l'association. J'ai pu suivre juste à distance sans pouvoir évidemment venir aux conférences. Mais je trouve ça vraiment magnifique. Et j'ai pu en fait prendre du recul sur le projet et me dire comment est-ce qu'un inconnu peut voir le projet de loin. Et je me suis dit, en fait, ça ne peut que rendre enthousiaste, en fait, de voir des étudiants qui s'intéressent à... alors, pas forcément, il n'y a pas que des Sorbonnards, mais enfin, pour les Sorbonnards, leur propre campus, et puis pour les étudiants du quartier latin, tout simplement, un élément symbolique, historique, important, qu'on voit de la rue, puisqu'il y a deux entrées. Et donc, je pense que c'est un projet d'un point de vue communicatif, vraiment, a un énorme potentiel. Et donc, je suis toujours aussi enthousiaste de cette association. Et donc, bravo, cher Marie, pour tout ce que vous faites.
Absolument, cher.
Je ne l'ai pas rappelé, mais il y a deux entrées de la chapelle de la Sorbonne. La première, sur la place de la Sorbonne, l'esplanade totalement ouverte sur la ville, et l'autre, sur la grande cour de la Sorbonne. Donc, c'est vraiment ces deux pendants qu'on cherche toujours à maintenir.
Voilà. Et il y a une chose, un paradoxe qui est très important, et je crois que Chateaubriand l'a senti dans le génie du christianisme, chère Marie-Louise, et qui s'applique à la chapelle de la Sorbonne. Notre association a vécu la sortie terrible de 68. Nous avons eu des profs qui ont été mis dans des poubelles, nous avons eu d'autres profs qui se sont battus pour donner leurs cours, comme Pierre Boutan, personne n'osait l'approcher. Nous avons eu des profs comme Michel Rouche, dont le bureau a été complètement détruit. Le pauvre, et comme c'était un ange, vous savez, le grand historien de Clovis, notre fondateur de France, il n'a rien dit, mais il s'est battu pour cette chapelle. Nous avons eu des aumôniers de grandes personnalités, comme Lustiger. C'est lui qui a eu l'idée de la messe pour Richelieu, et nous sommes prêts à la demander en laissant l'association restant culturelle. Il peut y avoir des anciens, et même le duc lui-même peut demander cette messe, elle est légitime, sans faire de la chapelle une paroisse. Mais il y a une chose importante, c'est que dans l'histoire de l'humanité, le paganisme et le christianisme ont toujours été vraiment en polémique, au sens grec, en guerre. Et que finalement, l'intuition qu'a eue Chateaubriand, malgré ce peu de modestie qu'il avait, parce qu'il voulait donner des leçons au cardinal Fesch en lui mettant son livre sur le bureau. Bon, ça, il fallait mettre la Bible pour le cardinal, mais il a mis le génie du christianisme. C'est que finalement, c'est toujours le christianisme qui va guérir l'âme humaine de ce néant mélancolique qui a donné le romantisme, qui a donné Goethe, qui a donné même Jean-Jacques Rousseau. Et c'est que quand l'âme s'égare, il fallait une promesse, et seul le christianisme est capable, dans cette révolution humaine, de nous le donner. Quoi. Ça, c'est la construction de la Sorbonne, c'est faite sur cela. Et je rappelle à Marie Guyot que dans le quartier, voyez-vous, le quartier où a été construite la Sorbonne, où se trouve l'hôtel de Cluny, où venaient les pères abbés de Cluny, les plus prestigieux de l'Europe. Hein. Saint Bernard décrivait avec colère le menu d'un repas à Cluny. Hein. 3-4 entrées.
Ce lieu était commanditaire de l'abbaye de Cluny.
Absolument. Et Cluny, autour de Cluny, le quartier qui est devenu la Sorbonne, c'était le quartier Coupe-Gorge. C'était
oui,
le quartier. Absolument, vous le disiez. Ah bon, il y en a. Bon, la Sorbonne n'est pas encore envahie. Aujourd'hui, il y a des charmantes filles comme vous à qui on a envie d'adresser la parole, d'inviter au café. Bon, Marie Guyot, merci pour cette association qui se renouvelle avec vous. Notre génération n'est pas passée. Ce concert qu'on fera ensemble, c'est pour unifier nos deux générations. Et il y aura des anciens et des nouveaux. On lira du Claudel, si vous voulez. On lira du Chateaubriand. Marie-Louise sera avec nous, comme la Bruyère, et là, on sent dans ses yeux une certaine nostalgie. Alors, je reçois une éminente et prestigieuse scientifique avec moi. Si vous voulez rester, je peux vous faire découvrir, mais que Radio Courtoisie fasse sa petite pub qui nous est nécessaire et que le bobino passe.
Chers auditeurs, la campagne de déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière touche à sa fin. Savez-vous qu'il est possible de transformer cet impôt en un soutien concret pour Radio Courtoisie ? Grâce à notre fondation abritante, vos dons sont déductibles de votre impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 75% dans la limite de 50 000 euros, permettant même de réduire cet impôt à zéro. Si vous souhaitez orienter votre contribution vers nos projets de développement ou si vous connaissez dans votre entourage des personnes désireuses de nous soutenir par ce biais, devenez nos ambassadeurs. Pour connaître la marche à suivre, contactez dès aujourd'hui notre directrice administrative Amandine Sicot en appelant au 07 85 55 90 91 ou au 01 46 51 00 85 ou en envoyant un courrier électronique à secrétariat@rc.fr. Radio Courtoisie ne vit que par vous. Merci pour votre indispensable fidélité.
Et voilà, l'invitée que j'annonce, elle nous parle de loin, mais elle est très proche de nos cœurs. Ça n'est autre qu'Alexandra Henri-Encaude, que vous connaissez déjà, chers auditeurs, et que j'ai voulu absolument avoir, malgré l'océan qui nous sépare, parce que j'étais un peu étonné d'entendre, un peu comme au temps de la peste à Marseille, un bateau qui arrive, et puis les expressions pseudo-scientifiques ou que les gens ne comprennent pas, l'antivirus sur un bateau de croisière, toute épidémie à bord reste une, etc. Et puis les métaphores fusent et l'on ne comprend rien. Et je me suis dit, comme Alexandra me l'a remarqué, c'est comme dans la guerre du Liban, où personne ne comprend plus rien. Que s'est-il passé ? Alors, la question que j'ai voulu lui poser, pour qu'elle puisse s'exprimer, elle qui nous a laissé un best-seller, Les Apprentis Sorciers, qui a été vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, et elle a eu même un cramp à la main, tellement elle a dédicacé cet ouvrage. Est-ce qu'Alexandra Henri-Encaude m'entend ?
Oui, je t'entends, voilà. Mais... j'ai perdu l'écran.
Mais c'est pas grave pour moi, l'écran. Alors, on entend votre voix. Alors, quelle est un peu, en forme de chronique, vous nous donnez pour nous expliquer ce qui s'est passé sur ce bateau, ce que c'est l'antivirus, avec un H, et ce que c'est que cette suite de discussions qui s'est déclenchée dans le monde et qui a un peu semé la confusion.
Alors, en tout cas, merci beaucoup Antoine de me recevoir. Je pense que c'est important de dire que lorsque tu m'as appelé, je t'ai dit mais il y a pas grand chose à dire sur tout ce qui, sur tous ces effets d'annonce. Déjà, je pense que je mets le ton au calme. Et c'est et ceux qui me suivent depuis quelques années savent que À chaque fois que j'ai calmé le jeu, j'ai eu les faits m'ont donné raison. Et donc, je trouve que c'est important que les auditeurs comprennent. Alors, si je prends Ebola, alors je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus anxiogène entre antivirus ou Ebola. J'ai regardé comme ça le mot antivirus dans l'actualité. On a des titres dans l'actualité qui souffle le chaud et le froid en permanence, c'est-à-dire de nouveaux cas détectés chez un passager. Bon, ça, on se dit, bon, c'est pas grand-chose. À ce moment-là, on a quel scénario pourrait suivre l'évolution de la maladie. Après, le Monde qui nous dit un membre d'équipage qui a accosté aux Pays-Bas est déclaré positif. Tout un article pour un monsieur qui est donc déclaré positif. Et puis on a CNews, quelle est cette souche qui a été détectée chez les rats en France dès 2023. Alors on s'aperçoit qu'en fait, du coup, ça y est, on était déjà mort depuis 2023. Midi Libre, il y a 2 jours, relâcher la vigilance serait irresponsable. Et puis, de façon très intéressante, plusieurs cas contacts français ont contesté leur quarantaine imposée à l'hôpital et la justice leur a donné tort. Donc on s'aperçoit qu'on a un vécu extrêmement différent selon qu'on se situe à bord du bateau et là on n'a qu'une envie, c'est d'échapper à des espèces de cosmonautes qui vous poursuivent. Donc il y en a une qui s'est tellement enfuie que finalement elle a été rattrapée et mise en quarantaine sur l'île des mutins du Bounty. Donc on va quand même très très loin dans les symboles. Et puis ces autres passagers en France qui de la même façon ont réfuté le fait d'être hospitalisé alors même que il devait se sentir très bien. Voilà, et là le Journal international de médecine nous dit il y a 2 jours que le gouvernement refuse de lâcher du lest. Donc on voit bien que là on n'est pas du tout, en tout cas dans tous les titres que je vous ai lus, on n'est pas sur une prise en charge hospitalière. À aucun moment on se dit quels sont les symptômes, quelles sont les façons de soigner, quelles sont... Non, ce qui est intéressant, c'est les mesures politiques. Alors, prenons maintenant Ebola, qui Ebola défraie aussi la chronique. Donc là, alors la première... La première nouvelle, quand on tape Ebola dans l'actualité, je tombe sur TF1 Info qui vérifie l'information que l'épidémie déclarée d'Ebola en RDC cacherait-elle en réalité des cas d'empoisonnement à l'arsenic. Oui, quand même, ça met l'ambiance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si Ebola arrive, nous dit Yahoo Actualité, si Ebola arrive ici, nous serons exterminés, l'angoisse des camps de déplacés au Congo. Donc en fait, là, voyez, encore une fois, on n'est pas sur une crainte du virus, on est sur une crainte de la politique et du fait que la prise en charge des 10 cas supposés est tellement terrible que on en arrive à ce genre de phrase. Si Ebola arrive ici, nous serons exterminés. Ce qui est quand même extrêmement fort. Alors ça, c'est si jamais je me balade. Moi, j'aime bien me balader un petit peu dans tous les niveaux d'information. Donc ça, c'est si je me suis baladée dans le niveau d'information qui concerne l'actualité. Donc vous voyez qu'avec cette actualité, Antoine, tu sais, c'est normal que tu ne saches pas sur quel pied danser et s'il y a danger ou pas danger. Donc j'aimerais à nos auditeurs donner quelques façons de réagir dans ces cas-là. Quels sont les mots qu'ils entendent? Est-ce qu'ils entendent des cas confirmés et des décès confirmés? Ça, c'est le mot qu'il faut entendre. Si jamais vous entendez des décès confirmés, alors là, vous dites « Ah, il y a peut-être quelque chose ». Pour le moment, il y a eu des cas confirmés. Par exemple, le 15 mai, il y a eu 8 cas confirmés d'antivirus, seulement 8. Donc on est bien loin des dizaines, des centaines qu'on peut annoncer par ailleurs. Le 16 mai, on est annoncé par l'OMS. On nous annonce 8 cas confirmés plus 2 cas confirmés dans un autre pays. Autrement dit, on est à 10 cas confirmés, mais je ne vois toujours pas de décès confirmés. Et donc, quand vous voyez les mots décès, il faut que vous que le cerveau connecte en disant, mais sont-ils des décès confirmés? Pourquoi je vous alerte là-dessus? Parce que nous avons tous vécu des cas de Covid où on nous disait, et ils sont morts du Covid. Et il y avait les plus grandes suspicions de la part des familles qui savaient très bien que leurs proches n'étaient pas morts du Covid, mais morts d'une autre cause. Et il y a finalement eu, au bout d'un certain temps, un article scientifique qui a tout à fait pignon sur rue et qui a admis que globalement, on était à 60% de décès dits de Covid qui n'étaient pas dus au Covid. Autrement dit, la minorité des décès dits dus au Covid était réellement due au Covid, c'est-à-dire à peu près 45%. C'est pas rien. Et cela justifie que je vous alerte, j'alerte nos auditeurs et toi-même, sur le langage utilisé. Donc le langage utilisé, c'est des cas suspectés. Et dans la même phrase, ils vont parler de cas suspectés et de décès. Donc là, vous entendez que, à un moment, c'est des cas suspectés et des décès, ça veut dire qu'en fait, on ne sait pas de quoi ces gens sont morts. Et c'est logique, parce que vous imaginez bien qu'en RDC ou en Ouganda, on ne fait pas des autopsies à tout bout de champ, surtout qu'on nous dit qu'il faut avoir très, très peur de ces cas-là. Et donc, en fait, on ne sait pas de quoi ces gens sont morts. Et ça, c'est la chose la plus importante que vos auditeurs doivent comprendre. Premier niveau de lecture de l'actualité et du langage. Deuxième niveau du langage, le mot pandémie. Un certain nombre d'entre vous savent maintenant, ont peut-être compris, que lorsque nous avons entendu pandémie du Covid, nous avons eu tous très peur parce que nous sommes dit que c'était donc une maladie avec un critère de sévérité qui était répandu dans le monde entier où le préfixe pan voulant dire de façon globale. Il n'en est à rien et c'est parce que l'OMS, un jour, a changé la définition du mot pandémie. En 1999, vous aviez raison d'avoir peur du mot pandémie. En 2005, vous deviez diminuer votre peur face au mot pandémie parce que, en fait, la définition avait changé et prenait en compte le fait que la transmission de la maladie était augmentée et prolongée. Bon, alors vous savez, ce qui se transmet très très facilement, c'est un rhume. Le rhume banal répond parfaitement à la définition et donc nous pouvons déclarer, l'OMS peut déclarer une pandémie de rhume banal, puisque le critère de sévérité a disparu. Maintenant, le critère géographique, on nous parle donc beaucoup de RDC ou d'un bateau, mais finalement, à quel point sommes-nous liés à un côté global du mot pandémie ? Eh bien, en 2009, la définition change encore et nous dit que on va dire le mot pandémie dès lors que au moins un pays d'une région différente de l'OMS est concerné par l'épidémie. Donc là, effectivement, on se dit qu'on ne craint rien et qu'on doit être rassuré parce que les mots n'ont plus le même sens qu'auparavant. C'est le premier niveau que je voulais dire. Le deuxième niveau est un niveau d'actualité qui n'a pas été abordé et pourtant, Dieu sait qu'il était important. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps, donc aux alentours du 15 mai, 16 mai, 3 jours après toutes ces déclarations, Nous avons l'OMS qui tient son Assemblée générale à Genève entre le 18 et le 23 mai 2026. Cette OMS est en grande difficulté et là, à nouveau, je vous invite, j'invite vos lecteurs à aller sur l'actualité et taper l'Assemblée générale de l'OMS et voir qu'effectivement, cette Assemblée générale était sous les pires augures puisqu'il y avait deux choses qui arrivaient. Le fait que de plus en plus les gens doutent de l'efficacité de l'OMS à résoudre des problèmes plutôt qu'à les créer. Et d'autre part, il y avait une coupure monstrueuse d'argent, de leur source de financement, puisque les États-Unis et l'Argentine ont quitté l'OMS, ce qui représente moins 20% des financements de l'OMS. À cela, vous devez ajouter une autre crise pour l'OMS financière, c'est que de nombreux pays ont diminué leur cotisation, le financement de l'OMS. Autrement dit, on se retrouve dans une situation où l'OMS va juste mettre à la porte 2371 personnes d'ici juin. Donc, vous voyez, dans une immédiateté complète. Et donc, effectivement, les choses ne vont pas bon train dans l'OMS. Et donc, elle essaye de faire passer des décrets, des systèmes de rangement, des virus, etc. Et elle n'y arrive pas vraiment parce que les différents pays membres commencent à être de plus en plus réticents. Et donc, en fait, trois jours avant que l'Assemblée générale n'ait lieu, tout le monde entier aurait dû parler du fait que l'OMS était en grande souffrance et que effectivement, bien quand vous êtes en grande souffrance, rien de tel de dire que vous êtes tordu la cheville ou que vous avez eu un gros accident ou que le monde entier a besoin de vous écouter, sinon il va mourir. Voilà. Voilà un petit peu pour donner de façon globale une situation aux gens. Alors, je peux comprendre que certains, vu toutes les horribles choses qui sont dites aussi dans les médias sur moi, peuvent douter de ce que je dis. Alors, à ce moment-là, je vais aller sur la maladie la plus dure, qui est Ebola, et je vais leur dire que depuis, en 50 ans, on a recensé, alors, avec les précautions qui sont importantes d'avoir, hein, parce que on est en Afrique, vous avez vu sur le Covid, dans nos pays même, on ne sait pas très bien si, enfin, on s'aperçoit après coup qu'il y avait que moins d'une personne sur deux qui était morte réellement du Covid. On parle de 15 000 morts d'Ebola en Saint-Quentin. Ça peut paraître énorme à vos auditeurs. Alors, je les invite à se souvenir qu'en juillet 2020, j'avais pris la parole sur TV Liberté pour justement mettre un petit peu de connaissances scientifiques dans toute cette folie Covid. Et j'avais parlé de la tuberculose. Cette tuberculose qui est une maladie infectieuse hautement contagieuse, elle, et qui, en fait, alors là, je ne vais même pas prendre 50 ans, je vais prendre entre 2020 et 2025, c'est-à-dire en 5 ans, a compté 7 millions de morts. 7 millions de morts dues à la tuberculose quand vous n'en avez pas un mot traité par les informations. Si ça vous semble cohérent et justifiable, je suis heureuse de discuter avec ceux qui trouvent cela parfaitement normal. Pour moi, nous avons là la preuve d'une manipulation médiatique et par des organismes comme l'OMS et donc, par voie de conséquence, par des gouvernements qui deviennent la marionnette de tels organismes pour nous faire parler d'un sujet quand finalement le seul sujet dont on devrait parler, c'est à ce moment-là, si on veut parler d'une maladie infectieuse, de la tuberculose.
Mais vous ne croyez pas qu'il y a un choix politique derrière cela? Parce que l'Ebola, c'est le continent africain. L'Ebola, c'est le rapport aux animaux. Et alors que la tuberculose, elle s'est un peu domestiquée comme maladie. Vous ne croyez pas que c'est cela? Et que c'est le rapport à la puissance africaine? Parce que si vous touchez à l'Ebola, vous allez perturber toute le rapport évidemment, impérialiste avec l'Afrique de toutes les puissances, qu'elles soient russes ou européennes, alors que la tuberculose, elle est beaucoup plus parlementarisée, je veux dire, ou domestiquée. Vous ne croyez pas qu'il y a des raisons politiques derrière ça?
Alors, c'est là où moi, je, au risque de décevoir les gens, je reste toujours dans mon canal d'expertise. Mon canal d'expertise n'a jamais été la politique. Et du coup, je reste à observer un certain nombre de choses qui montre que, en tout cas, par rapport à ta question initiale que tu m'as posée hier soir en disant est-ce qu'il faut avoir peur d'antivirus, de Ebola, etc. Eh bien, je laisse tout un chacun comprendre de quelle situation on parle. Maintenant, que l'Afrique soit dans le collimateur parce que il est le mauvais élève, non contrôlable par exemple des histoires de confinement ou des histoires, en tout cas sur le Covid, la plupart des pays d'Afrique ont réagi d'un seul homme en disant « ça ne nous concerne pas, c'est une maladie de blanc ». Donc au moins, ouais. Ils ont exclu, ils sont débarrassés du problème. Et c'était une façon de gérer qui finalement était raisonnable dès lors qu'on soignait les gens en fait. Voilà, effectivement, j'ai envie de dire que la dimension politique, je te la laisse analyser. Il y a évidemment des tas de raisons. En tout cas, moi, je vois une raison toute simple. C'est que, à faire peur aux gens, je contrôle les gens. C'est pour ça que moi, je ne contrôle pas les gens, parce que j'essaye de toujours les rassurer et donc de ne pas leur faire peur. Voilà. Le pouvoir, c'est de faire peur aux gens. Si par exemple là pendant notre interview je t'avais dit que il y avait un grand risque avec antivirus ou Ebola, je pense que notre interview serait devenue virale. C'est très facile, en fait, de faire peur aux gens et de créer ainsi un intérêt. Donc, voilà, pour moi, la politique, elle est vraiment au niveau d'un organisme qui s'est revendiqué devoir gérer la santé au niveau mondial, ce qui est déjà une aberration en soi, et qui est en perte de vitesse parce que plus de financement et perte de confiance, et qui, du coup, par tous les moyens, tente de survivre. Il tente de survivre, effectivement, par des histoires différentes, et typiquement Ebola ou tout virus qui passe d'un animal à un être humain, puisque ça donne une dimension incontrôlable, parce qu'on se dit « Ah ben, des animaux, il y en a toujours autour de nous ». Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que, vous voyez, en 2023, ils disent « Ah, mais les rongeurs français, depuis 2023, ils avaient des antivirus ». Alors, voilà. Et en plus, ce qu'il y a d'incroyable dans tout cela, c'est que il y a une manipulation des informations qui fait que les gens comprennent pas très bien si c'est hautement transmissible ou pas hautement transmissible. Typiquement, la dernière information sur le hantavirus de l'OMS laissait planer le fait qu'il prenait l'hypothèse qu'il y aurait une transmission par voie aérienne. Et c'est pour ça qu'il considérait que tous les cas exposés sur le bateau étaient des cas. C'est grandiose parce qu'on n'a jamais vu un hantavirus qui soit transmis par voie aérienne. Il faut véritablement, moi j'aime bien provoquer, mais pour se choper un hantavirus, il faut se sniffer un rail, non pas de coke, mais d'excréments de rongeurs. Je ne suis pas certaine que tout le monde fasse ça. Donc voilà, c'est une guerre du mensonge pour contrôler les gens. Avec des intérêts divers et variés qui consistent à avoir le pouvoir sur des gens. Donc, ton hypothèse sur l'Afrique est tout à fait possible et plausible.
Et pourtant, dans ton livre sur le Covid, tu dénonçais d'une certaine façon l'intrusion du pouvoir politique dans
Oui.
le côté
Ah
scientifique.
ben,
On peut
voilà,
maîtriser
ben
un
là
peuple.
aussi, j'ai commencé là-dessus. J'ai commencé en disant, vous voyez, il y a une intrusion des pouvoirs politiques qui font que quelqu'un qui sait qu'il va bien ne peut pas sortir de l'hôpital, et c'est une intrusion du pouvoir politique. Donc ça, oui, ce que je n'arriverai pas à faire de façon suffisamment certaine, ce sont les causes, parce qu'à mon avis, les causes sont c'est des causes assez complexes en fait, qui se résument à avoir du pouvoir sur autrui. Par le biais d'une soi-disant santé.
Et qu'est-ce que vous pensez quand l'OMS et le Conseil européen utilisent des formules assez ambiguës, qu'il n'y a aucun danger de propagation dans la population, de même pas de danger sur les croisiéristes, et de l'autre côté, on verrouille tout. Quel est ce langage qu'utilise l'OMS et je crois le Conseil européen, c'est le
Oui,
CDC de. Voilà, c'est ça.
absolument. Bien, en fait, ça s'appelle la stratégie du souffler le chaud et le froid, et rien de tel pour perdre les esprits, puisque vous ne savez plus sur quel pied danser, vous ne savez plus si vous devez avoir peur ou si vous ne devez pas avoir peur. La raison pour laquelle j'ai pas, pour ainsi dire, pas pris la parole sur toute cette crise à la fois d'hantavirus et Ebola, contrairement à beaucoup de mes collègues, c'est que je considérais qu'il n'y avait rien à dire. Donc dans ces cas-là, je dis circuler, il n'y a rien à dire. Et que finalement, à ressasser ces mots Ebola, hantavirus, bien c'est comme crier au loup. On connaît hein, la stratégie de crier au loup à la maman qui au bout d'un moment, quand on crie au loup, elle se lasse. On apprend ça aux enfants et elle ne vient pas. Donc en fait, c'est infantiliser les gens en disant chaud, froid, et puis bah, c'est une forme d'anesthésie pour les rendre captifs de l'information parce que du coup ils ne savent pas si c'est grave ou si ça n'est pas grave et donc ils sont obligés de se maintenir au courant.
Voilà, on est un peu dans la pièce de Molière, Le malade imaginaire, n'est-ce pas? Et
Non, parce que
Molière, on
le
est
malade
mort, ouais.
imaginaire. Oui,
Oui?
mais le problème du malade imaginaire, c'était que c'était une chose individuelle et que finalement, c'était un désordre d'un individu. Tandis que là,
Ça devient
c'est...
collectif.
Là, on est beaucoup plus dans 1984, si je dois dire quelque chose. Ça, pour moi, on n'est pas dans Molière, on est hélas dans 1984, de faire peur et de vous dire qu'il n'y a qu'une voix que vous pouvez entendre et toujours à refuser les débats. Vous voyez, en fait, dans les choses que j'aurais pu, qu'on aurait tous dû espérer, surtout compte tenu bah, du fait que l'histoire m'a donné raison, les faits m'ont donné raison, et c'était que si un nouveau front s'ouvrait infectieux, alors on me met à débattre avec
Voilà.
ceux qui disent le contraire.
Voilà.
Et non, au contraire, on est de plus en plus dans des silos, isolés les uns des autres, convaincus les uns que les autres ont tort, les autres que les uns ont tort. Et ça relève de la même stratégie de division, de souffler le chaud, le froid, de ne plus savoir où est-ce qu'on en est. C'est très grave.
Voilà.
C'est une explosion de nos sociétés et c'est un naufrage de l'intelligence.
Voilà. Sur ce très, très beau mot, naufrage de l'intelligence, cher Alexandre Arroyon-Caude, les auditeurs ont été très touchés d'entendre ces explications. Je vous donne rendez-vous pour une autre émission quand on aura guéri le monde entier et qu'on soit sur une planète sans antivirus. Je vous salue.
Ah non, mais non, on ne va pas faire peur aux gens. Là, c'est le contraire de tout ce que je viens de dire.
Non, mais tout à fait. Mais c'est l'art de la litote à l'anglaise, puisque vous avez un peu de sang anglais, n'est-ce pas? Je vous salue.
Oui, mais enfin, pas vos auditeurs.
Bon, on vous salue et à la prochaine. Merci de tout cœur. Il y a plus que de l'intelligence là, il y a de la beauté et de l'amour. Et on vous remercie pour votre analyse. Voilà.
Merci.
À la prochaine, chère Alexandra.
Vous venez d'entendre le libre journal d'Antoine Assaf et Alexandre Apreval, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 30 mai 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.